Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Kaléidoscope, une émission mensuelle pour vous faire découvrir l'histoire de la psychothérapie institutionnelle. Et pour ce faire, j'ai autour de moi les pensionnaires et les soignants de la clinique de la Chênaie, où une fois de plus nous sommes ensemble pour une heure d'échange et de témoignages. Alors, comme il y a beaucoup de choses à dire, hein, je ne perds pas de temps, je vous présente tout de suite les invités sur le plateau, Marie-Ange, Jean-Philippe, Julien Gwenvel et François. Bonjour à vous tous et toutes.
Bonjour.
Gwenvel, je te passe tout de suite la parole. Tu peux nous rappeler le thème de l'émission et vers quoi on se dirige.
Très bien, donc on est dans la cinquième émission de Kaléidoscope, la psychiatrie en couleur, où on parle de la psychothérapie institutionnelle dans le Loir-et-Cher. Et là, dans cette émission, on va parler des parcours de vie, des parcours de soins, et on va se poser la question en quoi le club thérapeutique amène autre chose dans la vie de plusieurs personnes, dans le parcours de vie des uns et des autres. Parce qu'effectivement, depuis le début de l'émission, sur Studio ZEF, on a commencé à présenter le club, les différentes activités que permet le club, et on a déjà évoqué comme quoi les activités, le fait de faire des sorties, des ateliers, des contrats, etc., tout ça est un support, un prétexte pour créer des événements, et la finalité de tout ça, c'est d'avoir des effets bénéfiques à la fois à l'échelle collective, du point de vue d'avoir une bonne ambiance, puisque ça va aider à avoir des relations à la fois de soins, mais aussi d'entraide, de faire ensemble, de travailler ensemble, etc. Et puis de restaurer des relations sociales, humaines et plus humaines. C'est un peu le but, c'est vraiment l'objectif qui est poursuivi. Et puis d'un point de vue individuel, d'essayer que, qu'on soit soignant ou qu'on soit soigné, on se restaure, on se redécouvre différemment, avec des liens plus sincères les uns avec les autres. Et donc, tout ça, ça a des effets, puisque quand ça manque, que ce soit en psychiatrie ou dans d'autres milieux, ce qui se passe, c'est que la bienveillance, elle est en général dévolue à certains professionnels individuellement qui s'emparent de cette question-là et qui ne peuvent le faire que par intermittence, parce que les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'ils puissent le faire. Et le club est là pour, c'est vraiment un support institutionnel, un support associatif, pour qu'il y ait vraiment toute une multitude d'espaces qui puissent se créer sur cette question-là et faire perdurer cette dynamique pour l'alimenter en permanence, et que ça ne repose pas seulement sur la spontanéité, les idées des uns et des autres, mais que ce soit déjà quelque chose de posé et que chacun puisse y abonder petit à petit, voilà, à son niveau.
Pour illustrer, continuer ton propos, je propose que Marie-Ange prenne la parole. Marie-Ange, vous avez votre vécu, votre parcours, on vous a entendu dans l'émission dernière. Vous vouliez rebondir justement par rapport à ça, par rapport au club, par rapport à ce que ça vous apporte.
Oui, en fait, j'ai voulu témoigner de ce que la clinique et le club avaient fait pour moi, parce que je l'ai vécu comme un véritable miracle. Au sens humain du terme. Avant la Chênaie, pendant 2 années qui, moi, m'ont paru interminables, et 2 années, dans certaines circonstances, c'est vraiment interminable. On me disait de me lever pour que je me lève. On me disait de me déplacer d'une chaise à l'autre. Je me déplaçais. On me disait de manger, je mangeais. Mais absolument rien ne venait de moi. Pire, en fait, j'avais intérieurement un trou noir qui semblait m'aspirer en permanence, sans répit. J'étais vide de mots, vide de sensations, vide de sentiments. J'ai le souvenir de compter absolument n'importe quoi, de compter des nuages, de compter des carreaux, pour combler ce vide intérieur et contrer la panique que ça générait en moi et la souffrance. Et en fait, c'est un psychiatre de secteur, complètement anticonventionnel, le docteur Pariente, qui a découvert la Chênaie à l'époque et qui m'y a envoyé. Et là, j'ai mis quelques jours, j'en sais rien, peut-être une semaine, à me rendre compte que la lumière s'était rallumée. Je précise qu'à l'époque, je ne prenais aucun médicament, que mon esprit fonctionnait à nouveau, que des idées me venaient, des images me venaient, que je pouvais parler à quelqu'un, que j'existais à nouveau. Et ça a été, en fait, c'était une véritable magie. J'ai mis des mois à croire que c'était vraiment revenu, que j'étais revenue. Et c'est comme si mon esprit avait trouvé l'espace à la fois sûr, la sécurité, et ouvert pour pouvoir refonctionner. Je me souviens que c'était en décembre 1999. Et le club avait organisé une comédie musicale. Et je me suis trouvée embringuée dans cette comédie musicale à chanter, à danser, à me costumer pour le spectacle. Des choses que jamais j'avais faites avant. Et alors que quelques semaines plus tôt seulement, je croyais ma vie finie. Que j'allais errer jusqu'à la fin comme un fantôme. Et à partir de ce moment, je suis assez émue parce que ça a été extrêmement... Cette période était très intense. Je parle de la comédie musicale parce qu'elle est très révélatrice de cette joie à vivre à nouveau qui m'habitait à ce moment-là. Et à partir de ce moment, je me suis emparée de tout ce que la clinique et le club offraient, ateliers, contrats et tout le reste, pour me reconstruire. Plus encore, quelques mois après mon arrivée, j'ai participé à l'Assemblée générale du club et j'ai été élue au conseil d'administration et j'ai pu participer à des décisions importantes pour le club, pour nous tous. À un moment, je me suis retrouvée à avoir, comme on appelle communément, un emploi du temps de ministre, alors que j'étais patiente de la chaînée. Et il s'est passé un incident amusant. Enfin, pour moi, c'était amusant après coup. Je m'étais retrouvée à déjeuner avec le directeur de la clinique et tous les médecins. Et j'avais un contrat standard juste après. Et comme j'ai dit, je m'étais vraiment emparée de ce qu'on avait à faire à la clinique et je tenais vraiment à tenir mes engagements. Et donc, je me suis levée de table en leur disant « Je vous prie de m'excuser de vous quitter, mais j'ai à faire. » Quand je suis sortie, j'ai explosé de rire parce que je venais de dire aux principaux responsables de la clinique que j'étais plus occupée qu'eux. Il y a juste une petite chose que je voudrais rajouter avant de terminer, c'est qu'au bout d'un an, je suis complètement partie de la chaînée. J'en avais plus besoin. J'étais restaurée, mais différente. D'ailleurs, je me suis installée à Blois. Et des années après, à partir de 2009, mais surtout 2013-2014, les circonstances ont fait que j'étais très mal à nouveau. Ça a commencé en 2009, donc j'ai hésité très longtemps. Et après ces nombreuses hésitations, j'ai repris contact avec la chaînée. Et là, il y a quelque chose que j'ai vraiment compris. C'est que plus de 15 ans après, on me connaissait toujours. En fait, on me reconnaissait en tant qu'être humain. Et voilà, ça fait un monde de différence. Et c'était ce que je voulais exprimer.
Oui, merci beaucoup Marie-Ange.
Merci beaucoup.
On voit bien à quel point la bienveillance est quelque chose de à la fois très simple à dire, à penser intellectuellement, mais à réaliser, c'est encore plus fondamental, quoi. Donc vous avez été sensible et vous n'êtes pas la seule, puisque effectivement, au cours des témoignages qu'on a depuis le début de cette série d'émissions, c'est quand même ça qui revient et qui caractérise la chaînée et la pratique de la psychothérapie institutionnelle en général, peut-être, Gwenvaël.
Oui. Oui, votre témoignage, il est extrêmement émouvant parce qu'on voit que ce dont il est question en psychiatrie, c'est une question qui nous dépasse tous, c'est juste comment changer une existence. Et ça, c'est vraiment une question qui nous dépasse. On n'a pas de réponse pour ça. Ou en tout cas, au niveau du club, ce qu'on voit, c'est que un certain support peut amener des conditions favorables dans certains cas pour qu'un rapport humain soit modifié. Et ça peut donner des raisons de vivre davantage que des protocoles de soins qui sont prédéterminés, décidés ailleurs, hors sol. Et ça, sur ce plan-là, il peut y avoir des effets. Et là encore, on peut insister sur le fait que toutes ces activités-là, vous avez parlé des ateliers, des contrats et de tout ce qui est autour. Enfin, par exemple, bon, les concerts, mais c'est un prétexte. L'atelier radio, c'est aussi un prétexte. La finalité de tout ça, c'est d'essayer d'amener une sorte d'écosystème d'ambiance différente, où la temporalité pourra être plus ou moins rapide, lente, dynamique, sportive, musicale, artistique ou autre. Parce que c'est dans ces temporalités-là, plurielles, que les uns et les autres vont pouvoir se retrouver leur marque. Se retrouver, c'est là qu'on peut rencontrer l'autre tel qu'il est lui-même et qu'on peut, on se découvre soi-même. Et voilà, ce que peut amener le club, c'est beaucoup ça, c'est... rappeler, et puis ça aide les soignants aussi, qu'il faut s'adapter aux temporalités des uns et des autres et qu'il y a besoin d'ambiances qui soient différentes. Et ça, dans un établissement de soins au long cours, un établissement clinique sans activité associative ne peut pas l'amener seul. Il faut que ce soit représenté par quelque chose, que ce soit une association, un club thérapeutique, un GEM, un groupe d'entraide mutuelle ou autre chose. Mais cette tonalité-là, elle ajoute de la créativité, elle remet du mouvement qu'on peut difficilement trouver ailleurs. Et en tout cas, quand ce n'est pas institutionnalisé, ça peut manquer, puisque quand ça repose sur les épaules des uns et des autres, c'est fragile et ça peut, ça peut manquer.
Est-ce qu'on peut traduire il existe un cadre bien défini, bien repéré, et dans ce cadre-là, il peut y avoir des mouvements de souplesse, en fait, où les gens peuvent être comme ils sont, au moment où ils sont, être accueillis comme ça. Mais par contre, effectivement, je me souviens, les témoignages de la précédente émission, il y avait aussi cette, comme tu dis, cette temporalité où c'était très important de s'inscrire aussi, de ne pas rester seul avec son symptôme parce qu'on cogite, parce que, que c'est, on pense qu'à ça, etc. Donc, tout ça, ça fait un ensemble d'activités, moi je comprends qu'on puisse être très occupé, avoir un agenda de ministre.
Donc oui, c'est un cadre. Là, le club de la Chênaie, c'est un club qui est paritaire. Tous les clubs peuvent fonctionner différemment. Par exemple, à la Borde, ils ont fait le choix que le club soit d'abord fait par les patients. Il n'y a pas de soignants dans le club. Il faut que le club soit l'objet des patients. Et donc l'agencement est différent. Mais voilà. Pour le club de la Chênaie, nous sommes un club paritaire qui fonctionne de façon paritaire. Et pour l'instant, il n'y a pas de manière meilleure que l'autre de faire, c'est juste différent. Mais en tout cas, ça restaure des liens qui peuvent être différents et des choses à vivre qui sont tout à fait différentes.
Jean-Philippe,
oui.
Bienvenue à l'atelier radio.
Merci.
c'est la première fois qu'on se croise.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que vous voulez réagir, puis nous raconter un petit peu aussi, si vous le voulez bien, votre parcours.
Mon parcours a débuté à la Chênaie il y a 4 ans. Je suis arrivé un petit peu difficilement à la Chênaie. J'avais peur de tout. Je sortais d'une psychiatrie lourde et j'avais fait un burn-out, voilà. Et donc, j'avais la trouille de ce qui pouvait se passer à la Chênaie. Et au contraire, j'ai été accepté tout de suite. J'ai vu qu'on pouvait travailler tous ensemble sur la cuisine, sur tout ça. Donc, beaucoup de contacts avec les gens et ça m'a vraiment plu beaucoup. Et dans un cadre relativement, on va dire, ouvert et fermé comme la Chênaie, j'y ai trouvé mon compte très rapidement. J'avoue que les médecins n'y sont pas pour rien. On m'a diminué mes traitements, on m'a associé à beaucoup de choses, pertinentes dans la cuisine, à organiser des repas, etc., etc. Puis faire du service à table. Et ça m'a beaucoup plu parce que je me suis retrouvé en contact avec des gens, quelque chose dont j'étais séparé depuis longtemps. Donc je me suis redécouvert et là je vais vraiment très bien. Je suis sur un nuage. Non, c'est vrai, j'avoue.
Vous parliez de psychiatrie lourde, ça veut dire c'est au niveau médicaments, vous aviez...
Ah, au niveau médicaments, j'avais vraiment un traitement très fort et qui me donnait la tremblote, qui me donnait des réactions secondaires assez incroyables. Et en fait, j'étais traité pour quelque chose que je n'avais pas. C'est-à-dire qu'on m'avait dit que j'étais bipolaire, alors que je ne suis pas du tout bipolaire, et on a entamé un traitement très lourd sur ce sujet en ce qui me concerne. Une fois qu'on a découvert que je ne l'étais pas, le traitement s'est allégé. Le médecin qui m'avait en charge à Ony, donc c'était à côté de Pontoise, a pris contact avec le docteur Place, qu'il connaît personnellement, et donc m'a envoyé ici tout de suite en disant « ça c'est votre sortie de secours ». Et j'avoue que c'est ma sortie de secours, parce que je m'étais mis à boire, hein, je ne vais rien cacher. J'essayais de trouver des dérivatifs multiples et variés, et je ne les trouvais pas. Et grâce à eux, j'ai vraiment pris sur moi. Je suis devenu vraiment quelqu'un de plus humain, plus... je me suis protégé de pas mal de choses, bien évidemment, mais... Là, j'ai vraiment fait un parcours sur moi-même qui m'apporte beaucoup. Voilà.
Et vous avez donc pu renouer ce que vous disiez tout à l'heure, socialement, vous avez renoué
totalement.
Des relations avec les autres.
Ah bah, là, j'avoue qu'on se rencontre tous, on se connaît tous. Mmh. On participe ensemble à des tas d'ateliers, des tas de choses. Moi, je fais, par exemple, je vais au train vert, je fais le service au train vert, je fais le service aussi en salle à la restauration. Je fais le tabac, je ne fume pas, mais je m'occupe du tabac. Plein de choses qui me mettent en contact avec le monde, quoi, monde avec la réalité. Parce qu'on a tendance à être très éloigné de la réalité à un moment ou à un autre. Et là, vraiment, j'ai retouché terre, quoi. Voilà.
Et en plus de ça, vous avez décidé de contribuer vous-même au club et de porter votre pierre à l'édifice.
Oui, moi je suis effectivement prêt à aider le club. Là, on a un petit problème avec les vélos et tout ça, là, donc on va en parler avec Julien. Moi, je suis très très disponible et j'adore bricoler. Les gens ont besoin de sortir, besoin de s'éclater un petit peu à l'extérieur, à faire du vélo. Et on va essayer de... J'en ai parlé avec François Cardinet. Et on va essayer de remonter quelque chose de sérieux là-dessus pour que les gens reprennent de la liberté en donnant un petit coup de pédale pour aller jusqu'à Amboise. Ou, voilà.
Très bien.
C'est super. Les beaux jours arrivent là.
C'est parfait. Moi, j'ai entamé une saison de pêche. Je vais pêcher tous les samedis matins. Mmh. Je sors avec un colocataire qui s'entend très bien avec moi parce que je suis en colocation donc grâce à la Chênaie du côté de Sœur. Et on part ensemble en véhicule, pêcher et se détendre, discuter. C'est vraiment génial. Quoi.
Oui. Mais vous êtes locataire d'un des logements
associatifs. D'un des logements associatifs, tout à fait.
Ah oui, c'est ça.
François, vous voulez dire un petit mot ?
Rebonjour. Par rapport au début de mon hospitalisation, donc le 6 décembre 2017, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que je faisais quelques crises de panique, j'étais très angoissée et je faisais quelques crises d'anxiété, mais depuis ça va mieux. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup apporté ici à la Chênaie, c'est le club de la Chênaie, le club quoi, tout ce qui s'occupe des sorties, événements, concerts. Et j'ai voulu m'investir dès le début avec le bar, aussi avec, un peu plus tard, avec le travers, le restaurant associatif qui a été créé en 1984, où je m'investis aussi. Après, il y a aussi l'atelier cyberespace où je me suis intéressé, j'y vais de temps en temps, même assez souvent. Il y a aussi le journal La Souk, je ne participe plus trop, mais de temps en temps, j'y participe aussi au journal La Souk. Bon, alors, on peut dire, je voulais juste terminer par ça, on peut dire que j'ai rebondi par rapport à ma vie quand j'étais au collège, ma vie, pas juvénile, mais quand ma vie adolescente, où j'étais harcelée verbalement et physiquement à cause d'une soi-disant virilité. Et donc, je trouve que ça n'avait pas beaucoup de sens qu'on me compte de moi pour X ou Y raison. Et donc après le fait que j'ai fait plusieurs séjours en psychiatrie et puis un suivi psychiatrique m'a beaucoup permis de me faire grandir dans la vie et de me détendre l'esprit et d'être moins pensif et de être plus dans le moment présent et moins soit dans le futur, soit dans le passé. Voilà, je voulais terminer par ça. Merci.
Merci, oui. François. On va faire une petite pause musicale.
Très bien. Kaléidoscope.
La psychiatrie en couleur.
On vient d'écouter le morceau Le cœur des vivants du groupe Les Doigts de l'Homme qui est passé au Boissier en 2012.
Merci Julien. On va tout de suite, sans plus tarder, écouter le témoignage d'Ousmane.
Oui, bonjour Ousmane. Nous voilà en face, toi et moi, pour parler un petit peu de ce que tu as connu dans ta vie par rapport à ton chemin de soins, par rapport aux établissements avant la chaînée et la chaînée, ta vie, tes projets, tes envies. Donc, tu as quel âge, Ousmane ? Tu as 26 ans. Eh bien, écoute, à toi la parole. Et puis, j'interviendrai de temps en temps dans la conversation.
Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis venu ici il y a longtemps. Quand j'étais tout petit, donc ça fait que j'ai fait toutes mes scolarités ici. Puis j'étais avec les parents jusqu'à... Depuis longtemps, je vivais avec les parents. Après, je suis tombé malade, puis je ne m'entendais pas bien avec les parents. Ils maltraitaient, tout ça. Donc j'ai fait... Après, ils me frappaient, ils me battaient, tout ça. Puis mon père ne me calculait pas, il ne m'achetait rien. Puis quand je suis tombé malade quand j'étais au lycée. Je suis allé au collège jusqu'à 3e. Après, je suis parti au lycée. Je suis resté au lycée là-bas, j'ai fait moi 3 ans au lycée.
Quand tu dis là-bas, Ousmane, c'était à quel endroit ton lycée?
En fait, mon lycée c'est à Paris. J'ai fait une année de coiffure, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais comme ça me plaît, ça, c'était trop fatigant pour moi, j'ai changé. Je suis parti faire la chaudronnerie. Quand j'ai commencé la chaudronnerie, j'étais tellement bien que j'étais tellement à fond dedans, je pensais qu'à faire ça. J'étais tellement à fond dedans, j'amenais que des félicitations. Après la deuxième année de CAP chaudronnerie, je tombais malade. Donc ça fait que j'ai pas pu avoir mon diplôme. Les profs, ils ont dit ouais. Puis tous les élèves qui ont eu félicitations pendant l'année, on les a fait sortir à la télé. Dans une émission qui s'appelle que tout le monde veut prendre sa place avec Nagui, tout ça. Bah, moi j'étais dedans. Ouais. Après quand j'ai tombé malade, j'ai trop regretté quoi. Je me suis en voulu pendant tous ces temps là, je m'en veux encore. Parce que vraiment je voulais avoir mon diplôme parce que je travaillais super bien. Puis après quand mes parents me battaient, je tombais malade à cause de mes parents. Puis ils m'ont envoyé en psychiatrique. J'ai battu en psychiatrie pendant plusieurs années, tout ça. Puis après, mon père m'a mis au dehors. Après, je suis parti, mon père m'a mis au dehors, il m'a dit, vas-y, deviens indépendant. Il m'a mis au dehors sans rien, dans le froid, comme ça. Donc, je me suis débrouillé. Mon assistante sociale, elle m'a...
Elle t'a aidé? Elle t'a accompagné?
Avec, comment on appelle ça déjà? Là, je sais pas si on dit psychologue ou psychiatre. Ma psychiatre ou psychologue, je sais pas qui.
Elle t'a aidé à trouver un logement? Comment tu as été logé?
Ils m'ont trouvé un foyer post-cure pour les jeunes malades. Ils dorment là-bas, ils vivent là-bas, ils mangent là-bas. Bon, moi, je suis là-bas, j'ai fait 2 ans ou 3 ans là-bas, je crois. Puis ils m'ont dit, ouais, mais il faut avoir un projet pour rester là-bas. Moi, j'avais un projet. J'avais un projet, je les ai dit. Ils m'ont dit, comme ça, ils t'aident à mettre. Ils ne te laissent pas comme ça. Tant que ton projet n'est pas en place, ils ne te laissent pas partir.
Cet endroit où tu étais, c'était dans quel endroit?
C'était à Paris, dans le 20e. Après, ils m'ont. Comment dire? Ils m'ont dit, ouais, ton projet, t'inquiète pas, on va le mettre en place. Mon projet, en fait, c'était d'aller en famille d'accueil. Comme j'étais mal au point, ils m'ont dit non, faut que tu fasses du sport, tout ça. On va trouver un trou pour toi. Bon, moi je me suis dit un appartement. Ils m'ont dit t'es encore malade, tu pourras pas vivre tout seul. Puis après ils m'ont dit ouais, si tu veux venir dans une clinique la Chênaie pour te soigner, tout ça. Soit j'ai resté là-bas, ils m'ont fait soigner jusqu'à ce que mon projet soit établi. Soit je venais à la Chênaie.
Qu'est-ce qui t'a décidé finalement?
Je me suis dit pourquoi pas changer un peu. J'ai dit je vais changer un peu pour voir comment ça commençait. Ils m'ont demandé t'es content? J'ai dit ouais, je vais venir à la Chênaie, ouais. Voilà quoi.
Et donc là maintenant, Ousmane, ça fait combien de temps que tu es à la Chênaie?
Ça fait 8 ou 9 mois que je suis à la Chênaie.
Et qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie?
Parce que je vais mieux maintenant, quoi. Je vais beaucoup mieux maintenant. Voilà.
Au niveau du sport, est-ce que tu t'y es mis au sport?
Ouais. J'ai fait du foot, basket, tennis, tout ça.
Et ici, au niveau des contrats, tu travailles?
Ouais, presque tous les jours. J'ai contrat presque tous les jours.
Et ça va? T'es pas trop fatigué?
Si, dès que je finis le contrat, je vais dormir.
Et donc, 8 mois, c'est jeune en même temps. Et donc, tes projets maintenant, alors, si tu regardes un peu devant.
Ben, mon projet, c'est de... Ils m'ont dit, ouais, ils m'ont dit, tu viens à la Chennai. Puis non, on s'occupe de ton projet. Mon projet maintenant, c'est d'aller en foyer de vie à Paris. On a postulé dans plusieurs foyers de vie à Paris. On a poursuivi dans plusieurs foyers différents.
Et à Paris, tu as gardé des amis, des contacts, des gens que tu veux retrouver?
Ouais, parce que ma mère m'appelle beaucoup, ma soeur aussi, puis mes amis aussi m'appellent beaucoup aussi. Tous les gens que je connais m'appellent, voilà.
C'est important ça de rester en lien, d'avoir des amis.
Ouais, beaucoup, ouais. Même aujourd'hui, il y en a qui vont m'appeler encore.
Qu'est-ce que tu peux dire de comment tu es soignée ici par ailleurs par rapport à avant?
À mon avis, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Mais c'est, là-bas, on fait des piqûres, tout ça, une fois par mois. Ici aussi, c'est une fois par mois. Les médicaments que je prenais là-bas, c'est ici aussi, je les prends. Puis voilà, j'ai la musculation, tout ça. Comme quand j'étais à Paris, je partais en foyer de vie. On jouait à la PlayStation, beaucoup de consoles. Puis on sortait, on partait au cinéma, on partait au foot.
Ici, c'est plutôt la campagne, la forêt. Ouais. Tu as connu Paris, la vie de citadin. Est-ce que ça te manque?
Vous voulez vraiment savoir ce qui me manque? C'est les kebabs qui me manquent. Les kebabs de Paris, les Grecs. C'est les kebabs de Paris qui me manquent.
Il n'y a pas de bons kebabs ici à Blois?
Ah, on ne peut pas aller à Blois. J'ai voulu aller au kebab à Blois, mais on dit, mais il ne faut pas être tout seul. Il faut être beaucoup, quoi. Comme ça, il ne faut pas une seule personne. Une chauffe pour une seule personne, non. Voilà.
D'accord. Est-ce que tu as des questions sur que tu as envie de poser?
Non, pas forcément.
Ça va, tu étais à l'aise pendant cet entretien?
Ouais, j'étais à l'aise, ouais. Merci.
Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie.
Voilà le témoignage d'Ousmane. Julien, tu voulais réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre.
Oui, une idée qui me vient du coup à l'écoute de tous ces témoignages, c'est l'importance d'accueillir les gens à la chaînée après avoir vécu ce qu'ils ont vécu chacun dans leur vie, les difficultés, la maladie, les phases de crise, etc. C'est capital de se sentir bien accueilli pour pouvoir construire ensuite des soins, une relation avec les soignants, etc. Et on a institué pas mal de choses, notamment au club où on a l'habitude, lors des BE, la réunion, le bureau exécutif, la réunion hebdomadaire ouverte à tous. On réserve un petit temps pour accueillir les gens, pour se présenter. Au sein de la clinique, on a la réunion accueil le dimanche aussi, où les anciens chénéens accueillent les nouveaux. Et c'est valable autant pour les pensionnaires, les patients, que pour les stagiaires, que pour les nouveaux moniteurs, pour les médecins, les artistes accueillis par le club. La notion d'accueil est vraiment importante, c'est ce qui conditionne ensuite la suite de la relation. Et puis ça fait terriblement du bien après un parcours difficile.
Oui, parce que ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que effectivement, avant d'arriver ici, il y a beaucoup de gens qui ont eu un parcours quand même assez lourd, chaotique, difficile, quoi. Donc,
on le voit bien dans les témoignages.
Oui, hein. Oui, c'est récurrent hein, quand même. C'est un constat, malheureusement. Enfin, voilà. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais...
Non, mais ça, du coup, j'enchaîne sur cette idée. Ouais. C'est important de se souvenir. Que les patients qu'on accueille, c'est des gens qui souffrent. La notion de patient, étymologiquement, c'est pas quelqu'un qui patiente, qui attend, c'est quelqu'un qui pâtit, qui souffre. Et le fait de se souvenir qu'une personne est là parce qu'elle souffre, ça permet de resituer les choses. Des fois, dans la relation au quotidien, on se dit, oh, disons, celui-là, il m'en kikine, il y a son symptôme là qui m'agace, etc. J'en ai vraiment marre. Le fait de le resituer en tant que patient, comme personne qui souffre et comme l'expression de sa maladie, ça permet, en tant que soignant, déjà aussi de remettre les choses un peu, voilà, un peu droites, un peu...
Ouais, au clair.
Ouais, plus au clair. Je ne sais pas comment le formuler correctement, mais voilà.
Oui, Marie-Ange.
Parce que je voulais dire, là je découvre aussi le témoignage d'Ousmane, qui est, dont une partie en tout cas est très, très dure. Et... À côté de ça, on a ri ensemble, on a fait des choses ensemble, on a fait du ping-pong ensemble. Et cette tolérance dont parlait Julien, des soignants, elle existe aussi entre patients. C'est-à-dire qu'on sait, sans se le dire, qu'il y a des choses très, très dures derrière. Et il y a une tolérance qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a des patients qui crient, il y en a qui sont agressifs, il y en a... Alors c'est vrai, ça dépend des moments, quelquefois on réagit un peu, mais globalement, il y a une très très grande tolérance des uns envers les autres.
Parce qu'on s'attache à rencontrer les gens avant de rencontrer une maladie ou des symptômes. Ça, voilà, ils nous reviennent un peu de temps en temps, mais voilà, on rencontre d'abord un tel Ousmane et pas une personne qui a vécu ça et ça et ça. Et voilà, on s'attache d'abord aux personnes et après, la notion de maladie est un peu plus distante, quoi.
Moi, je comprends.
Oui, Roselyne.
Je comprends mieux la situation d'Ousmane, surtout la réaction de ses parents, parce que en Afrique, les maladies psychiatriques constituent un sujet tabou. On n'en parle pas. C'est parfois dû à on met ça sur le coup de l'envoûtement parfois. Donc on n'est pas soigné, on n'en parle pas dans les foyers et tout le reste. Donc il n'y a pas les traitements adéquats non plus. Donc les parents ne comprennent pas. Moi, avant de venir ici en France, je ne savais pas ce que c'était que la dépression, alors que j'en souffrais.
Parce qu'il n'y a pas de mots.
Il n'y a pas de
mots. Pour dire ce qu'on ressent, c'est ça que vous voulez dire.
Exactement. On ne met pas de mots sur l'état d'âme des patients. Il n'y a pas de schizophrénie, il n'y a rien. On se dit non, t'as rien du tout, sois fort, joue pas au bébé et tout le reste. Et moi, j'ai connu le mot dépression une fois ici en France, parce que j'étais déjà déprimée, mais personne ne me parlait de ça. Donc j'avais tous les symptômes et tout, mais il a fallu que je fasse malheureusement une tentative de suicide avant qu'on ne découvre que j'étais dans un état dépressif vraiment avancé et tout. Et on a commencé par me soigner. Je demande que les soins soient... qu'on profite des soins ici. Une fois qu'on a les soins, qu'on en profite. La chaînée est bien placée. Je suis là depuis pas très longtemps. Mais je me dis chaque jour qui passe que c'est une chance que j'ai de me faire soigner.
Oui.
Voilà.
Qu'on prenne en compte ce que vous êtes et ce dont vous souffrez.
Exactement. Exactement.
C'est juste parce que c'est très intéressant quand même de parler de ce qui se passe ailleurs. Ouais. Et comment dire, est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est vraiment embêtant, quoi, vraiment un handicap de ne pas pouvoir, justement comme vous disiez, en Afrique, de ne pas pouvoir prendre en charge, soigner comme on pourrait le faire ici
tout,
éventuellement
tout à fait.
Ou est-ce que c'est entre guillemets, comme c'est culturel, cette histoire, vous parliez d'envoûtement, vous parliez de voilà, est-ce que ça fait pas partie finalement des mœurs de tout à chacun et que finalement les gens vivent comme ça tant bien que mal?
Non, les gens vivent pas tant bien que mal, parce que je me dis, il y a quand même quelque chose qui cloche. Il y a le besoin de soins,
oui,
qui se fait ressentir. Donc les gens doivent aujourd'hui prendre connaissance de ça et soigner les maladies psychiatriques en Afrique aussi. Ça va aider, j'en suis certaine.
C'est vrai qu'il y a des actions dans ce sens-là.
Oui, mais...
pas assez à votre
avis.
Oui, c'est ça. À votre avis, c'est pas assez.
Il faut faire encore un peu plus fort. Voiler un peu plus fort.
Merci, Roselyne. On peut écouter le témoignage de Tiffaine.
Très bien.
Peut-être. Hein, et ouais, puis, on réagit après.
Ouais.
Salut, Tiffaine.
Bonjour.
Alors, Tiffaine, est-ce que tu souhaites raconter brièvement ton parcours en psychiatrie?
Oui, alors moi j'ai commencé par plutôt la psychologie à 16 ans. J'ai rencontré ma première psychologue Et puis par la suite, j'ai voulu aller un petit peu plus profondément dans les choses et aller voir un psychiatre. Plutôt voir le côté médical de la chose. Et du coup, mon psychiatre m'a parlé de la chaînée par la suite.
Alors en fait, tu viens juste d'arriver à la chaînée. Enfin, ça veut dire 10 jours, c'est pas beaucoup. Comment tu trouves la chaînée, cette clinique? Quelles sont tes attentes?
La clinique, j'étais assez surprise parce que c'est vraiment un endroit chaleureux, bienveillant, que ce soit les patients, les monos. Et je trouve ça très intéressant que ben on nous donne la parole, qu'on nous laisse aussi faire des tâches, comme par exemple les ateliers et les contrats. On nous donne une certaine confiance et on nous laisse autonomes quand même. C'est important qu'on puisse aussi faire des choses, être capable. On nous fait sentir qu'on est capable de faire des choses. Et c'est très intéressant. J'aime beaucoup.
Oui, c'est gratifiant en fait. Hein, on voit qu'on sait faire des choses. On nous confie une tâche à remplir de A à Z, on l'a fait et c'est gratifiant.
Oui, c'est ça, c'est gratifiant parce que pour certaines maladies, dont la mienne, moi je suis dépressive, et c'est vraiment des moments où on sent qu'on ne peut plus rien faire, on n'arrive plus, on sent qu'on... Même sortir de son lit pour nous, c'est une tâche très très dure à faire. Et là, le fait qu'on nous donne cette possibilité de prendre notre temps et qu'on nous donne des responsabilités, ça nous aide en fait. Et après, on arrive à se dire, en fait je suis capable, même si je mets du temps. Si on nous pousse un petit peu et qu'on nous donne justement cette responsabilité et qu'on compte sur nous, ça nous aide beaucoup.
C'est ici tout le sens des contrats. Alors justement, tu viens d'arriver, je disais, quelles sont les activités, les contrats que tu aimes faire?
Moi, en contrat, j'ai pris la cuisine. C'est vraiment un endroit... En même temps, c'est créatif et puis en même temps, le fait qu'on fasse à manger pour les autres, qu'on ait une utilité, en fait, et que les gens vont aimer ce qu'on fait et qu'on apprécie vraiment le travail qu'on peut fournir, c'est vraiment gratifiant. C'est vraiment... Ça fait du bien, en fait, de se dire qu'on fait quelque chose pour les autres et qu'en plus, on nous donne cette responsabilité, cette confiance et qu'on y arrive, en fait.
Est-ce que maintenant que tu as découvert ce lieu, est-ce que ça correspond un petit peu à tes attentes?
Ah oui, tout à fait. Avant, je ne connaissais pas la psychothérapie institutionnelle. Et du coup, moi, je pensais plutôt aller dans un hôpital psychiatrique classique. Et je pense que ce lieu me correspond beaucoup mieux. Parce qu'on a justement cette quasi-autonomie. Et on nous donne aussi une parole, des responsabilités. On a confiance en nous et ça nous aide. Au lieu de nous bourrer de médicaments et nous laisser cloîtrer dans nos chambres, je pense que ce serait pas... ça nous aiderait pas, en fait. Ce serait même pire. Donc vraiment, c'est ça que j'attendais d'une clinique, plutôt. Enfin, d'un hôpital psychiatrique, du coup. C'est vraiment pouvoir partager quelque chose, un moment, une période avec les autres patients. S'aider mutuellement, en fait. Être là les uns pour les autres, et ça on le voit vraiment ici. On le perçoit bien, on perçoit vraiment cette bienveillance que ça envers les uns et les autres, même si des fois il faut savoir s'accommoder avec les autres, ce qui peut des fois être compliqué selon la maladie des autres, mais on arrive à se comprendre et à s'aider et à être indulgents les uns envers les autres, et on est là en fait les uns pour les autres, et c'est aussi ce que j'apprécie en fait. On n'est jamais tout seul. Oui.
Est-ce que tu penses être là pour une période déterminée ou tu vas voir au fur et à mesure?
La période de temps n'est pas encore déterminée. Je vais voir au fur et à mesure. Je pense que ça va se compter en moi, mais c'est vrai que je ne sais pas pour l'instant.
Parce qu'à côté, tu es étudiante?
Oui, c'est ça. Je suis étudiante en psychologie. Et moi, je suis plus loin, je suis en Alsace. Ça veut dire que je suis très loin de chez moi.
Tu veux dire que tu organises tu t'organises pour pouvoir mener à côté tes études en psycho?
Oui, c'est tout à fait ça. Et ce que j'apprécie ici, c'est qu'on on nous oblige pas à rester ou à être enfermés. On nous laisse aussi l'opportunité de pouvoir rentrer en congé. C'est pour prendre un petit peu l'air et puis le soin des nouvelles de notre famille aussi.
Alors, quand est-ce que tu retrouves, que tu retournes à la fac?
Je retournerai pas à la fac avant longtemps, mais je passerai juste les partiels, du coup. Mais sinon, je n'irai pas suivre mes cours pour l'instant.
Voilà le témoignage de Tiffen, interviewé par Laetitia, ici présente. Ousmane était interviewé par Brigitte, ici présente aussi, je tiens à le dire. Que tout le monde met à contribution cette émission. C'était à souligner. Tiffen, bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez rejoint sur le plateau. Ainsi que Léa, bonjour.
Bonjour.
Tiffen, en entendant votre témoignage, ce qui est frappant et très intéressant, c'est que vous avez souligné l'importance de la solidarité entre les gens, entre les patients. Et ça, c'est quelque chose qui vous a marqué particulièrement ici, où c'était une attente aussi de votre part.
Oui, c'était une attente. Ouais. Et ça m'a beaucoup marqué parce que chez moi, en fait, je suis toute seule. Je suis vraiment très seule. Je me sens pas très comprise. Les gens autour de nous, enfin autour de moi, ne comprennent pas la psychiatrie et ne veulent pas la comprendre. Et ici, j'ai vraiment trouvé des gens qui connaissent la psychiatrie, qui peuvent m'aider et qui peuvent aussi vivre les mêmes choses que moi et me comprendre. Mmh. Et ça m'a fait énormément de bien.
Vous vous êtes sentie moins seule,
c'est
du
ça.
Coup. Ouais.
Mmh. C'est ça. Et savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider, ça fait du bien. Mmh.
Vous êtes là depuis combien de temps alors? Vous pouvez le rappeler, vous l'avez dit. Mais,
moi, ça fait deux mois maintenant.
Deux mois, c'est ça.
Deux mois, oui.
Et je me tourne vers votre voisine, Léa, bonjour.
Bonjour.
Alors, et vous, alors, c'est quoi un petit peu votre parcours, si vous voulez bien nous raconter?
Alors, moi, mon parcours, ça fait maintenant 2 ans à peu près que j'ai été diagnostiquée dépressive. C'est une maladie que j'ai depuis à peu près mes 8 ans, donc qui a été en latence pendant très longtemps. Et le problème, c'est que j'en parlais pas, je me disais que c'était dans ma tête, que j'en faisais tout un fromage. Et je me suis retrouvée donc à faire complètement un burn-out après quelques mois passés en Corse, là où je travaillais, donc à l'armée. Et voilà, du coup ensuite je suis tombée en dépression, je suis restée chez mes parents pendant un an. Un an où ils en pouvaient plus de moi parce qu'ils comprenaient pas que ça mettait autant de temps à guérir. Ils ne me l'ont pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et ensuite, un psychiatre aux urgences m'a parlé de cette clinique qui m'offrait des opportunités de me remettre en mouvement, de me remettre à bouger et à vivre, en fait. Et du coup, j'ai galéré, je me suis battue pour venir ici et j'ai réussi à venir au final. Et j'ai trouvé ce second souffle pour me remettre en mouvement et me remettre à vivre.
Le parcours entre le moment où vous étiez chez vous et pour venir ici a été difficile?
Oui, en fait, le problème, c'est que j'avais une psychiatre qui ne voulait pas que j'aille dans un hôpital psychiatrique ou une clinique. Mais j'avais besoin d'un psychiatre pour valider la demande. Et elle m'a tout simplement laissée. Un jour, je suis allée aux urgences parce que j'allais pas bien, j'avais des envies clairement suicidaires. Et je l'ai rappelé, elle m'a dit simplement au revoir. Et je ne l'ai jamais revue. Et il faut un très long moment avant de retrouver un psychiatre qui puisse faire le dossier pour venir ici. Et ça a été une bonne galère.
Ah oui, trouver un médecin, c'était difficile.
C'est ça, médecin qui puisse valider la demande pour que le dossier soit pris en charge ici, ça a été, dans mon cas, assez compliqué.
D'accord. Et alors, à votre arrivée ici, vous avez été donc bien accueillie, on l'a bien compris. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous étiez un petit peu en attente, justement, de se sortir aussi de cette solitude qu'on ressent quand on est en dépression? Et est-ce que vous avez trouvé satisfaction par rapport à ça?
Alors moi, ce que j'attendais le plus, en fait, c'était les contrats qui faisaient un emploi du temps qui me forçait à bouger. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Donc j'avais un emploi du temps qui me permettait de bouger. En plus de ça, je suis tombée dans la chambre d'une autre jeune fille à peine plus âgée que moi. avec qui on s'est, au bout de deux jours, parce qu'il faut quand même s'apprivoiser, on a fini par très bien s'entendre et passer beaucoup de temps ensemble, ce qui...
Deux jours, c'est pas mal. Deux jours, c'est rapide.
Les premiers jours, on a à peine parlé et après, on a commencé à... Et ensuite, on est devenus très proches au fil du temps. Mmh. On s'est un petit peu éloignés dernièrement, mais on garde contact.
Donc, il y a un réseau amical qui se crée.
Hein, bah, faut croire.
Je me rappelle la première fois où on m'a envoyé en psychiatrie. J'ai pleuré tout le temps parce que je me suis dit, tiens, on m'envoie chez les fous. Parce que c'est la notion qu'on m'a apprise, qu'on m'a inculquée. Vous allez chez les fous. Donc je dis, mais je ne suis pas folle, je ne vais pas finir ma vie comme ça et tout. Mais ça a été différent après. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit que j'ai retrouvé. C'était une bonne ambiance quand j'ai vu une convivialité qui s'est installée avec le temps et tout.
Oui. Je suis plutôt d'accord avec ce que Roselyne dit. Non seulement nos familles ont ces stéréotypes, et même tout le monde, et même moi, je les avais. Et du coup, j'appréhendais un petit peu la psychiatrie. Et une fois qu'on arrive ici, on se rend compte que c'est totalement différent. Et on trouve... On peut se créer justement des petits groupes d'amis, comme on en parlait, des petits réseaux.
Alors, parlez-nous-en.
Moi, il faut savoir que quand je suis arrivée, j'étais dans la même chambre que Léa, donc ma voisine. Mmh. On a mis du temps, mais au bout d'une semaine, on s'est rapprochés.
C'était pas faute d'essayer. Je te proposais d'aller manger, tu me disais toujours non, je vais y aller au deuxième service.
Oui, mais je voulais pas être un poids, donc du coup, c'est un peu compliqué d'aller vers les autres, mais on s'est rapprochés très rapidement. Et du fil en aiguille, on attrape un petit peu d'autres personnes comme ça, d'autres jeunes, ou même des gens qui étaient qui nous touchaient aussi.
Ouais, des gens, oui, avec qui on s'entendait bien.
Oui, j'allais dire, vous êtes un groupe d'amis dans vos âges plutôt, ou oui, c'est mais... assez disparate
Alors il y a pas mal de jeunes, enfin des jeunes qu'il y a, mais il y a aussi des personnes qui un peu moins jeunes, on va dire. avec qui...
Très poli. Très poli, Léa.
Oui.
Oui, c'est avec d'autres personnes avec qui on passe les repas, ou on passe du temps dehors à discuter, ou avec qui on passe du temps tout court.
Oui,
oui, des gens qui nous ressemblent, en fait. Tout simplement, on s'en rend compte au fil du temps, et au fur et à mesure où on apprend à se connaître, moi personnellement, je me rends compte que c'est des gens qui ont vécu des choses similaires aux miennes, et qui ont aussi une certaine sensibilité, et puis on se complète bien, et on s'aide en fait, mutuellement.
Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est frappant. Roselyne, vous disiez tout à l'heure que en Afrique, c'est une incompréhension par rapport aux symptômes, par exemple, de la dépression, quoi. Oui. Mais il peut y avoir partout et au sein même de la famille, oui, une incompréhension aussi par rapport aux symptômes qu'on a ou au malaise qu'on peut ressentir.
Tout à fait.
Alors c'est vrai que l'idée, c'est effectivement de déconstruire tous ces clichés, oui, et de pouvoir en parler naturellement, quoi, hein, sans, ouais, parler obligatoirement tout de suite de Gwenvalet, je sais pas, le fait même d'accueillir les gens comme vous le faites, c'est aussi déconstruire ces clichés là
ça joue énormément. Et un des aspects qu'amène le club, c'est que justement en psychiatrie, la plupart des personnes qui viennent ont des relations aux autres qui sont douloureuses pour plein de raisons. On l'a vu dans le témoignage d'Ousmane au niveau familial, mais ça se joue à plein de niveaux. Et ce que peut amener le club, justement, l'idée qu'on puisse dédramatiser les relations humaines. Et ça, en psychiatrie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, ça remet de l'ouverture vers les autres progressivement. Et c'est souvent ça qui agit auprès des uns et des autres. Mmh. Mais à la fois, le club permet de dédramatiser ces relations-là, comme Tiffaine le disait, on se côtoie, on est ensemble. Et puis c'est ça aussi, il faut préciser aux auditeurs que c'est ça aussi qui fait que les témoignages qu'on écoute là sont très touchants, puisque effectivement, tout le monde ne connaît pas l'histoire d'Ousmane. Donc là, c'est un peu c'est un peu révélé, etc. Mais c'est juste parce qu'on se connaît, on se côtoie tous les jours, et le Ousmane qu'on côtoie, c'est une boule d'énergie, de bonne humeur, etc. Et on le rencontre par cet aspect-là. Et donc du coup, la souffrance passée ou présente, quand les personnes continuent à se sentir mal, elle est mise au deuxième plan dès lors qu'il y a des relations qui sont conviviales. Tout est fait pour que y ait une bonne ambiance qui puisse s'instaurer. Et ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses dans la dimension des soins. Mais ce que je trouve surprenant, c'est que moi, ça fait quelques années que je viens à la clinique, mais c'est la première fois que je vois l'amitié s'inviter dans la clinique, parce que jusqu'à présent, ce que j'avais connu, c'était surtout des personnes où, certes, il y a des relations de sympathie, une ou deux personnes qui s'entendent mieux, deux, trois, etc. Mais je n'avais pas vu jusqu'à présent de groupe réel comme on peut le voir, où il y a de la légèreté, de la fraîcheur, etc., de la simplicité, aussi étendue, parce que dans le milieu de la psychiatrie, ce qui prédominait, ce que beaucoup de pensionnaires connaissent, c'est qu'à la fois on a de la sympathie, on se côtoie effectivement tous les jours, mais on s'est pris aussi dans une certaine routine, mais aussi il faut se préserver une distance, de être vigilant pour être sûr que les autres peuvent aller très mal. Donc il faut se protéger aussi de ça. Que de l'amitié puisse vraiment éclore, émerger tout doucement dans des petits îlots par-ci par-là, c'est pas anodin, parce que l'amitié, c'est quelque chose qui est vraiment très fragile. Ce serait presque une sorte d'étape du point de vue de ce que peut faire une ambiance qui est très, très subtile à cultiver. C'est quelque chose de très fragile. C'est une petite pousse fragile.
Oui, oui, Tiffaine.
Non, je voulais dire, j'étais d'accord avec Gwen Vael, comme quoi les relations sont dédramatisées ici. Parce que c'est vrai que ben, y a une certaine compréhension et on respecte l'intimité de l'autre. C'est vrai que je me sentais, j'ai jamais senti ce que j'ai senti avec les amis que je me suis faite ici. Et pour moi, ils sont la meilleure chose qui me soit arrivée, parce qu'ils arrivent à me comprendre, à me laisser aussi mon espace. Ils arrivent à comprendre que j'ai besoin de ma solitude de temps en temps. Ils sont très sécurisants. Et ils sont tolérants et indulgents, parce qu'ils connaissent, ils savent. Et c'est ça qui est important.
Alors, je fais exprès, hein, des fois, je pose des questions poil à gratter. Est-ce que c'est parfois, quand vous pensez à l'avenir au moyen terme, par exemple, parce que si vous partez de la chaînée à un moment donné, est-ce que c'est une appréhension? Alors, c'est peut-être un peu tôt, hein, comme question, mais dans l'idée, brûlant comme ça, est-ce que c'est une appréhension de se retrouver, du coup, de passer d'un milieu, entre guillemets, un petit peu protégé pour aller dans la vie de tous les jours, avec ses heurts, ses violences, est-ce que c'est quelque chose peut-être qui peut traverser l'esprit de temps en temps?
Personnellement, moi, je suis vraiment très, enfin, j'appréhende beaucoup. J'appréhende beaucoup, mais je me dis que la chaînée, le club et puis les personnes que je rencontre ici vont m'aider à retrouver cette force là Donc
ouais. Léa,
je suis plutôt du genre à vivre au jour le jour, pas trop stressée sur ce qui va arriver, même si c'est forcément quelque chose qui nous travaille un peu, parce que ça peut être un objectif de se retrouver une vie dite normale, mais je verrai au jour le jour.
Vous êtes dans cet état d'esprit actuellement.
Ouais. C'est ça.
Julien ?
Oui, en entendant du coup Léa et Tiffaine parler un peu de leur amitié, ça me fait penser du coup à une notion, on en avait déjà parlé je crois dans une dernière émission, qui est vraiment centrale dans l'idée du mouvement de la psychothérapie institutionnelle, c'est le côté co-soignant. C'est que le soin ne tombe pas de la classe entre guillemets des soignants, des médecins, des infirmiers vers les patients, c'est que ça va un peu dans tous les sens. on prend soin, nous, entre soignants, on prend soin, les soignants des patients, les patients, des fois, des soignants.
Oui, ça arrive, dans l'autre sens aussi.
Des fois, oui. Et entre patients, voilà, on serre les coudes. C'est ce qui fait notre humanité, en fait, notre lien avec les amis. Et c'est quelque chose qui soigne, on prend soin de l'humanité. Et aussi, du coup, c'est quelque chose dont les soignants ont fait attention aussi à l'indication des relations qu'on essaye de créer quand on accueille les gens. Quand les gens arrivent à la clinique, on a une réunion spéciale où on réfléchit au placement de chambre entre personnes. Nous, on a fait le choix d'avoir certaines chambres doubles. C'est plutôt à contre-courant des canons actuels de qualité d'hospitalisation, parce qu'on considère par exemple à l'hôpital que la qualité serait d'avoir qu'un seul lit et d'être chacun dans son coin, dans sa chambre. Nous, on a fait le choix, et c'est ce qu'on argumente auprès des autorités de tutelle, c'est que pour nous, c'est un outil thérapeutique d'avoir des chambres doubles ou triples, parce qu'une personne qui est déjà dans cette chambre va accueillir celle qui arrive. Et voilà, on réfléchit à cette indication. C'est une femme qui va pouvoir accueillir une femme. Elles ont à peu près la même sensibilité. On pense que, connaissant la personne qui est déjà dans cette chambre, on pense qu'elle pourrait accueillir cette autre personne. C'est quelque chose auquel on fait très attention.
Et là aussi, le cadre est assez souple, dans le sens où y a une demande de changer de chambre, selon les disponibilités, il y a possibilité de changer.
Là encore, c'est une notion qui est vachement importante dans le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, c'est la notion de mouvement de mobilité. Et oui, on change régulièrement de chambre. Là encore, c'est vraiment une indication thérapeutique et médicale de changer de chambre régulièrement. Ce qui peut être un peu maladif, c'est la fixité, quelque chose qui est impossible à bouger. Et au contraire, on essaie de remettre un peu de mouvement là-dedans, à travers, entre autres, le changement de chambre et les nouveaux liens qu'on peut créer.
Eh bien, écoutez, il me reste à tous et toutes vous remercier. C'est déjà la fin. On aurait bien continué.
Vivement la suite.
Bon, je crois qu'il nous resterait bien encore 5 émissions à faire. Hein. C'est pas mal. Hein. Oui, merci beaucoup. Je rappelle que cette émission pourra être, bien sûr, podcastée sur le site de studiozef.fr. Et vous dis au mois prochain. À très bientôt à la radio.
Yes, c'est cool. Ouais.